VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 17 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, convocation aujourd'hui d'une plénière du dialogue national pour l'examen et l'adoption d'un accord sur le calendrier de la présidentielle.
L'Union européenne, pour sa part, menace de prendre des sanctions si cette élection n'a pas lieu l'année prochaine.
Au Nigeria, les 21 lycéennes de Chibok libérées par Boko Haram ont finalement retrouvé leur famille hier à Abuja.
Au Niger, toujours pas de nouvelles de l'humanitaire américain Jeffrey Woodkey, enlevé vendredi dans le pays.
Le dernier roi du Rwanda, Kigeli V, est décédé hier aux États-Unis à l'âge de 80 ans.
En Irak, le premier ministre Abadi annonce le lancement de l'opération pour reprendre Mossoul au groupe État islamique.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, convocation d'une plénière du dialogue national aujourd'hui pour l'examen et l'adoption de l'accord politique sur le calendrier de la présidentielle. Le responsable de la frange d'opposition qui prend part aux travaux, Vital Kamerhe, a confirmé qu'un tel accord avait été trouvé, mais sans préciser la date de la tenue de la présidentielle. Pour sa part, l'Union européenne va préparer des sanctions économiques contre la RDC, à moins que la coalition au pouvoir, qui selon des diplomates de l'Union européenne a repoussé à avril 2018 l'élection présidentielle prévue en novembre, n'organise le scrutin l'année prochaine. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président Joseph Kabila devait quitter ses fonctions le 19 décembre à l'issue de deux mandats présidentiels, conformément à la Constitution. Une partie de l'opposition l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, s'est accordée avec sa coalition pour reporter l'élection et maintenir Joseph Kabila dans ses fonctions, tout en offrant le poste de premier ministre à un représentant de l'opposition, soulignent les mêmes diplomates. Le reste des partis d'opposition dénoncent un projet visant à maintenir le président au pouvoir. Le report du scrutin a déclenché le mois dernier deux journées de manifestation, des dizaines de personnes ont péri à Kinshasa dans des violences. Des élections doivent avoir lieu au plus tôt et pas plus tard qu'en 2017, a déclaré un diplomate européen impliqué dans les discussions. Étant donné la situation, nous sommes prêts à envisager des sanctions et le travail a déjà commencé, a-t-il ajouté. Les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent lundi au Luxembourg et sont susceptibles de s'accorder sur une déclaration commune, soulignant la possibilité de sanctions comme un gel des avoirs ou des interdiction de voyage. L'Union européenne utilisera tous les moyens à sa disposition, notamment des mesures restrictives individuelles, annonce un projet de déclaration consulté par Reuters qui entend viser les responsables de graves violations.
Au Niger, toujours pas de nouvelles de l'humanitaire américain enlevé vendredi dans le pays. Jeffrey Woodkey travaillait depuis 24 ans pour une ONG dans la région de Tawa. Ses ravisseurs, qui ont pris la direction du Mali après le rapt, seraient, selon le ministre nigérien de l'Intérieur, cité par l'AFP, des éléments du Moujao. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdourazak Idrissa.
Selon les autorités de Niamey, les ravisseurs de Jeffrey Woodkey ont franchi la frontière malienne. Ils se seraient dirigés notamment vers Menaka, a déclaré Mohamed Bazoum à l'agence France Presse. Le rapt n'est pas encore revendiqué, mais le ministre nigérien de l'Intérieur affirme que l'humanitaire américain est aux mains du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. En rappel, c'est au soir du vendredi 14 octobre que M. Woodkey a été enlevé à son domicile d'Abalak, localité située à environ 400 km de Niamey, dans la région de Tawa, frontalière avec le Mali. Ses ravisseurs ont tué le gardien du domicile et un garde national qui assurait la sécurité de l'humanitaire établi là-bas depuis 24 années pour le compte d'une organisation non gouvernementale. Un communiqué du gouvernement nigérien indiquait que des poursuites avaient aussitôt été engagées pour les rattraper. Samedi, le président Issoufou a annulé son voyage à Lomé pour prendre en charge la situation. Il a convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité et rencontré l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Niamey. Abdoulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok ont finalement retrouvé leur famille hier à Abuja. Elles ont été libérées par Boko Haram après plus de 2 ans de captivité. Gabi Dorsil nous en dit plus.
La semaine dernière, les rebelles avaient libéré ces 21 filles suite à des négociations menées par la Croix-Rouge internationale et le gouvernement suisse. Après leur remise en liberté jeudi, il a fallu 3 jours pour que leurs parents, vivant dans des régions éloignées, les rejoignent à Abuja, la capitale. Une des filles libérées, Rebecca Malam, a déclaré « Je tiens à remercier tout le monde pour cette merveilleuse chose. Je n'imaginais pas que je pourrais jamais revoir mes parents, mais Dieu m'a aidé à les revoir, donc je veux dire merci et que Dieu nous réconforte tous. » Des dizaines d'écolières se sont échappées dans les premières heures après l'enlèvement, mais suite à la libération de la semaine dernière, 197 restent toujours en captivité. Selon le gouvernement, des négociations se poursuivent pour qu'elles soient elles aussi libérées. Il a signalé que près de 300 filles ont été prises de leur école en 2014 à Chibok, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Boko Haram a mené une insurrection de 7 ans dans cette zone en vue de créer un état islamique. Le conflit a fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés.
Au Sénégal, 5 personnes arrêtées vendredi lors d'une marche de l'opposition organisée à Dakar pour exiger une plus grande transparence dans la gestion du gaz et du pétrole découverts au Sénégal étaient toujours détenus par la police hier. Nous exigeons leur libération, a affirmé à l'AFP le député Mamadou Diop, un porte-parole de la coalition de l'opposition. C'est de l'intimidation et ça ne peut pas mener vers l'apaisement qui est nécessaire, a ajouté M. Diop. Jointe par l'AFP, la police n'a pas voulu faire de commentaires.
En Guinée-Bissau, plus de 20 détenus, dont des criminels dangereux, se sont évadés dimanche d'une prison de Bissau en profitant de failles dans la sécurité. Cette évasion s'est produite à l'occasion de l'arrivée dans la prison d'un nouveau détenu, a indiqué à l'AFP une source pénitentiaire. Cette prison de la police judiciaire, située près du centre-ville de Bissau, est la seule dans la capitale bissau-guinéenne.
Au Soudan du Sud, de violents combats ont fait 56 morts dans les rangs des insurgés au cours du week-end près de Malakal, une ville que les rebelles tentent de prendre. Selon un porte-parole de l'armée, les insurgés ont attaqué les positions gouvernementales vendredi soir, mais l'armée est parvenue à tenir ses positions et à leur infliger de lourdes pertes. Il était impossible de vérifier dans l'immédiat les chiffres avancés par le porte-parole. Les rivalités politiques entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et l'ancien vice-président Riek Machar ont déclenché une guerre civile fin 2013, 2 ans après l'indépendance.
Le dernier roi du Rwanda, Kigeli V, est décédé hier aux États-Unis à l'âge de 80 ans. On n'a pas précisé les causes de sa mort. Il vivait en exil depuis 1960. Kigeli V avait été expulsé de son pays par les autorités coloniales belges pour avoir demandé à l'ONU de l'aider à obtenir l'indépendance du Rwanda. Il a d'abord résidé dans plusieurs pays d'Afrique avant de s'installer aux États-Unis en 1992 dans la banlieue de Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Irak, le premier ministre Haider al-Abadi a annoncé dans une allocution télévisée tôt ce matin le lancement de l'opération pour reprendre Mossoul au groupe État islamique. Pour sa part, l'ONU a exprimé son inquiétude quant à la sécurité des 1,5 million d'habitants du bastion de l'organisation djihadiste en Irak. De son côté, le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a estimé que l'opération était un moment décisif dans la campagne de la coalition internationale pour infliger à l'État islamique une défaite durable.
Et puis les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions dans les prochaines semaines contre le président syrien Bachar al-Assad et ses alliés. Cette décision reflète la frustration de Washington face à l'escalade de la violence, aux violations des droits de l'homme et aux difficultés d'aboutir à un cessez-le-feu durable. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Nous poursuivons la diplomatie parce que c'est l'outil dont nous disposons, a affirmé le secrétaire d'État américain John Kerry après une réunion hier à Londres des ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. « Je ne vois pas beaucoup d'engouement en Europe pour la guerre », a-t-il ajouté, malgré le peu de progrès réalisés lors de cette rencontre. Les quatre alliés qui se sont réunis à Londres suite aux pourparlers tenus en Suisse entre M. Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov sur les moyens d'avancer en Syrie après l'échec du cessez-le-feu à Alep. John Kerry et ses partenaires français, britanniques et allemands ont pu tout de même s'entendre sur un point, la nécessité d'augmenter la pression sur le régime syrien et la Russie pour que cessent les raids aériens dans la deuxième ville du pays. La diplomatie semble donc la seule option viable alors que Moscou et Damas continuent de frapper les rebelles à Alep, aggravant la crise humanitaire. Ces bombardements ont porté Washington à suspendre les négociations bilatérales avec Moscou sur la Syrie il y a moins de 2 semaines.
Ici aux États-Unis, un cocktail Molotov a totalement détruit, sans faire de victimes, un local du Parti républicain hier à Hillsboro, en Caroline du Nord. Et sur le mur d'un bâtiment adjacent a été inscrit le message « Nazis républicains, quittez la ville, sinon ». Pour un responsable local du Parti républicain, il s'agit là d'un acte de terrorisme politique.
Pour sa part, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a accusé sur Twitter, et je cite, « les animaux représentant Hillary Clinton et les démocrates en Caroline du Nord » d'avoir commis cet incendie parce que nous allons gagner. » Fin de citation. Sa rivale démocrate, Hillary Clinton, a dénoncé sur Twitter un acte terrifiant et inacceptable, ajoutant qu'elle était très heureuse qu'il n'y ait pas eu de victimes. Nous reviendrons sur la campagne électorale aux États-Unis dans la deuxième partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, notre page sport avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La finale aller de la Ligue africaine des champions de football pour commencer. Le trophée n'est plus qu'à 90 minutes de son retour en Afrique du Sud.
La dernière fois, c'était en 1995 avec un succès des Orlando Pirates. Cette année, les Mamelodi Sundowns, formation de Pretoria, peuvent créer l'espoir après leur succès 3-0 sur les Égyptiens de Zamalek. Les joueurs de Pissot, Mossimane se sont largement donné les moyens en attendant de se rendre au Caire. La finale retour de cette Ligue africaine des champions se jouera dimanche prochain.
En attendant la finale de la Coupe de la Confédération, les deux adversaires concernés ont connu des fortunes diverses en championnat.
D'abord, en Algérie, le Mobejaïa a été contraint au partage des points par la Jeunesse sportive de Kabylie dans le derby kabyle, score 1-0. Et puis en RDC, le tout-puissant Mazembe a battu Nusoja 1-0 lors de la 4e journée du championnat. Une 4e journée qui a vu le derby quinois entre le FC Renaissance et la SV Club, soldé par un score nul et Viège 0-0.
Au Togo, le championnat en était à sa 6e journée.
Le leader AS Togo Port a eu raison de Bikenti 2-1. Son dauphin, Koroki de Chamba, a réalisé le service minimum devant l'AS OTR. La bonne opération est pour Gomido, vainqueur de Korotoko de Lavier 2-0. Pour grimper à la 5e place, le champion en titre, Semassi, s'est repris en dominant l'Asco du Kara 2-0. Et puis en Guinée, il était question des demi-finales de la Coupe nationale. Et comme l'année passée, le Oroya jouera l'AS Kaloum. Les Rouges de Matam ont battu le Wakiria de Boké 2-1, pendant que le Gbengben écartait à l'Ousta de Fria sur la marque de 4-1.
La CAF a publié la liste des joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année.
Effectivement Idrissa, sur cette liste de 32 favoris, on retrouve le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, valeur sûre du Borussia Dortmund et tenant du titre. L'Algérien Riyad Mahrez, grand artificier de l'Est, champion d'Angleterre l'an passé. Samuel Eto'o est également présent, tout comme André Ayou, Serge Aurier ou encore John Obi-Mikel. Pour le joueur évoluant sur le continent, on peut noter le gardien de but ougandais qui évolue chez les Mamelodi Sundowns, Denis Onyango, le Congolais Meshack Elia, grand artisan de la victoire de la RD Congo au Chan, et le Nigérian Mfon Undo, meilleur buteur de la Ligue africaine des champions. Le prix du meilleur joueur africain de l'année sera décerné le 7 janvier prochain à Abuja.
Cyclisme pour finir avec l'épilogue du Tour du Cameroun, le Grand Prix Chantal Biya.
Une dernière étape entre Sambelima et Yaoundé, 169 km, remportée par le Rwandais Jean Bosco Sanguimana, ce 16e tour d'ailleurs remporté par le Français Martial Renaud, qui était à son premier tour sur le continent. Il décroche ainsi le maillot jaune devant le Camerounais Hervé Raoul Mba. Une quatrième et dernière étape à suspense, puisque 12 secondes séparaient seulement les deux coureurs. La grande déception est à mettre du côté des coureurs camerounais qui n'ont remporté aucune étape.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les ressortissants du Pool élèvent de plus en plus la voix pour demander la fin des violences dans leur département. Ils appellent les autorités à pacifier le Pool et le pasteur Ntoumi à se présenter à la justice, car cette fois-ci, il n'y aura pas de dialogue, nous dit de Brazzaville notre correspondant Ngwala Ngosu.
Les quelques personnes qui réussissent à s'extirper des violences dans le Pool sont muettes, avares de témoignages ou simplement traumatisées. L'avocat Hervé Ambroise Malonga a accueilli les parents chez lui.
Bon, moi je vais vous dire de mon grand-père qui est arrivé, avec une culotte. Vous savez que c'est des témoignages, c'est des scènes vraiment invivables. Au moment où je vous parle, je préfère encore quand même être en prison au lieu de voir ce que, d'entendre ce que mes parents ont connu. Ils ont sorti de leur maison, Manu Militari, pour leur demander de quitter leur village. C'est leur village. Et on leur demande de sortir, d'aller à Brazzaville. Ils n'ont pas de maison.
Claudine Mounari, candidate à la dernière présidentielle, manque des mots.
Une telle souffrance inutile, une souffrance injustifiée, des populations civiles qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont aujourd'hui traquées. Le Pool est devenu un terrain de chasse et le gibier, c'est l'être humain. C'est choquant. Je ne trouve pas des mots sur ces populations.
Les événements du Pool continuent de choquer l'opinion à tel point que ses ressortissants n'espèrent plus qu'à la victoire des forces armées sur le pasteur Ntoumi et ses miliciens ninja. Joachim Banza et Marie-Chantal Kodia soutiennent la traque d'Ntoumi dans leur département.
Dans le Pool, il n'y a pas de guerre. Il y a des groupes armés sous la mouvance de M. Frédéric Binsamou qui s'en prennent aux populations, aux biens de l'État, aux agents de l'État, ainsi de suite, et qui créent l'insécurité. Et donc la force publique est en train de mener des opérations justement pour mettre ces groupes armés hors d'état de nuire.
Et nous disons au pasteur Ntoumi, il est pasteur, mais quand on est pasteur, Dieu n'a jamais demandé de tuer la population. Il est en train de traumatiser ses mamans, il est en train de traumatiser ses sœurs. Il est en train de traumatiser les personnes âgées sinistrées aujourd'hui.
Les acteurs politiques, eux, ne sont pas en marge de toutes ces réactions. Jean-Michel Bukamba-Yanguma est le coordonnateur général du collectif des partis du centre.
On ne peut pas parler du Congo sans Pool. Disons, assez, ça suffit. Parce que le problème du Pool, il faut qu'on en mette fin. C'est trop cyclique, ça va, ça revient, ça va, ça... Il faut trouver une solution définitive à la question du Pool. Par tous les moyens. Justice et autres.
Dans le Pool, les populations fuient des zones de combat pour se réfugier à Kinkala, la capitale départementale, toujours sous blocus. Ngwela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Bénin, bras de fer entre les autorités et les étudiants, au cœur de cette brouille, une décision prise par le gouvernement du président Patrice Talon pour essayer de freiner la violence observée dans les mouvements d'humeur des étudiants. Explication de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante sur place à Cotonou.
À l'université d'Abomey-Calavi, ce n'est plus la grande affluence d'antan. Les étudiants ruminent encore la décision du gouvernement portant interdiction des activités des associations fêtières. Si la plupart refusent de se prononcer, au risque d'essuyer des représailles, les plus téméraires pensent qu'il faut tenir bon. C'est le cas de cet étudiant, membre de la branche la plus communiste des associations existant sur le campus. Il se fait appeler rebelle ou soldat par ses pairs.
François, au sein d'une organisation étudiantine qui défend l'intérêt des étudiants et que le président de la République décide d'empêcher ces gens-là de réclamer les droits. C'est un peu arbitraire.
Au nombre des raisons qui sous-tendent la suspension qui plane sur ces associations étudiantines, le banditisme et la violence des mouvements de revendication, pure invention selon cet étudiant.
Le banditisme dont on parle, ils n'ont qu'à aller dans les villes. Vous parlez de ces banditismes. Moi, je n'ai pas encore rencontré ces cas de banditisme dans l'université.
Mais dans le lot, il y a quand même ceux qui pensent que le gouvernement est dans son droit de siffler la fin de la récréation. Et pour cause.
Il y a connu trop de problèmes. Si bien que moi, je suis à l'ENAM. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fini l'année. Et bientôt, avoir même la tendance, avant que nous ne finissions l'année, on va même entrer dans 2017. Et ce n'est pas trop bien. Si cela continuait et que chaque année, on connaissait de mouvements comme ça, peut-être qu'on va finir par tout gâcher.
Pendant que le gouvernement joue la carte du jusqu'au boutisme, les étudiants ne comptent pas se laisser faire. En tout cas, les jours à venir pourront situer les uns et les autres sur cette affaire qu'il convient désormais d'appeler gouvernement contre les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Togo, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique a adopté une charte pour mieux lutter contre la piraterie maritime et donner des chances au développement de l'économie bleue sur le continent. De Lomé, notre correspondante sur place, Kay Lawson.
Au terme de notre session extraordinaire de notre conférence, je voudrais vous remercier et féliciter pour votre sage et consensuelle décision d'adopter et de signer la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement.
C'est en septembre que le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby Itno, a annoncé la signature et l'adoption de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement dénommée la Charte de Lomé, qui a sanctionné le sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu le 15 octobre dans la capitale togolaise. Avec cette charte, l'Afrique se dote d'un instrument important pour son avenir, a commenté le coordonnateur de ce sommet de Lomé, le général Essofa Ayeva.
La charte est signée. C'est toute une nouvelle ère qui commence pour l'Afrique, qui va regarder dans une même direction, surtout en harmonisant les instruments juridiques pour qu'ensemble on puisse combattre le fléau de la piraterie, de la pêche illicite et des trafics de tout genre.
La charte adoptée comporte 56 articles répartis en 7 chapitres. Retour succinct sur son contenu avec le premier ministre gabonais, Emmanuel Issoze Ngondé.
Ce document prévoit des mécanismes de coopération permettant aux États membres de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre la piraterie maritime, dans la lutte contre les attaques et les vols à mer armée, dans la lutte contre le terrorisme et d'autres menaces qui prévalent dans ce secteur. L'objectif de ces mécanismes de coopération, c'est d'amener les États à tout faire pour que nos océans et nos mers ne soient pas des lieux de prédation. Et l'autre fait important, c'est la création d'un fonds pour la sécurité et la sûreté maritime.
Les réactions diverses sont positives et restent optimistes.
Nous venons de remplir un acte de haute portée par sa rupture avec le passé. Aujourd'hui, l'Afrique à l'unisson apporte une réponse commune au fléau constitué par la piraterie maritime, la pêche non déclarée. La charte de Lomé, c'est un pas très significatif dans l'évolution de nos États.
C'est un travail remarquable qui a été fait à tous les niveaux. C'est vrai que la charte contient encore des aspects qui sont loin d'être parfaits. Ce sont des aspects qui portent sur le développement et particulièrement sur l'économie bleue.
La charte va constituer un début
par rapport à une meilleure prise de conscience des enjeux et de nos intérêts maritimes. Utiliser tout ce qui dépend de la mer afin de créer des emplois, donner des opportunités aux nouvelles générations.
La troupe enfantine togolaise, les ambassadeurs de vie, a appelé l'Afrique à l'unité et à la solidarité pour lutter contre les fléaux qui retardent l'éclosion de l'économie bleue sur le continent.
Que tout le continent se mobilise pour la protéger ce que la nature nous a fait si cher. En effet, très très longtemps, l'Afrique a cherché son réel développement. Oui, son réel développement. Moi, je crois que l'unité et la solidarité.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Présidentielle américaine 2016, troisième et dernier débat télévisé ce mercredi entre les deux principaux candidats, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. D'après un nouveau sondage dont les résultats viennent d'être publiés, la course pourrait être plus serrée que ne le croient certains analystes. Malgré les déclarations fort controversées de Donald Trump, le candidat républicain serait à seulement 4 points derrière Hillary Clinton, selon ABC News et le Washington Post. Avec Gaby Dorsil, les derniers remous de la campagne.
Tout d'abord, il faut signaler que la candidate démocrate Hillary Clinton s'est retirée un peu du tableau pendant quelques jours, le temps peut-être de se reposer et se préparer à affronter Donald Trump mercredi dans ce dernier face-à-face qui sera modéré par le journaliste Chris Wallace de Fox News. Bien sûr, Mme Clinton a pas mal de substituts et pas des moindres, y compris le couple présidentiel, Barack et Michelle Obama, et le vice-président Joe Biden. Les trois ont encore donné de la voix ce week-end contre Donald Trump. Celui-ci continue de réunir de grandes foules dans ses meetings où il multiplie et intensifie ses attaques, à tort ou à raison, contre sa rivale, contre ses pairs républicains qui ont levé le talon contre lui, contre les médias, enfin contre le système électoral même que Trump accuse d'être manipulé en faveur des démocrates. Hier dimanche, le porte-étendard du Parti républicain a concédé avoir perdu le soutien d'une partie de l'électorat féminin suite aux accusations d'agression sexuelle, accusations qu'il a encore démenties. Il a dit sur son compte Twitter, et je cite, « Pouvez-vous croire que j'ai perdu un grand nombre d'électrices sur la base d'événements qui n'ont jamais eu lieu ? Les médias sont en train de manipuler l'élection. » Fin de citation. Dans un autre tweet, Trump, un mania de l'immobilier, cherchant à remporter la première élection de sa carrière, a de nouveau affirmé que les médias nationaux se sont ligués contre lui, citons-le encore, dans un effort coordonné avec la campagne Clinton, en imprimant et en diffusant des nouvelles qui ne correspondent pas à la réalité. Ce à quoi le colistier de Clinton, le sénateur de Virginie, Tim Kaine, a répondu avec une pointe d'ironie. Il blâme les médias, il blâme les républicains, il dit que l'Amérique ne peut pas organiser une élection juste. Il s'en prend à chaque fantôme de son imagination parce qu'il sait qu'il est en train de perdre.
Gaby, Donald Trump a donc une fois encore agité le spectre d'une élection truquée au bénéfice de sa rivale Hillary Clinton, dénonçant l'attitude des médias, mais exprimant aussi des soupçons sur le déroulement du vote lui-même. Est-ce un signe qu'il sent sa défaite presque certaine ?
Et pour cause, Idrissa, le dernier sondage national NBC Wall Street Journal donne une avance de 11 points, 48% contre 37%, à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. En revanche, un autre sondage, ABC News Washington Post, la place aussi en tête, mais avec une avance moins marquée, soit 47% contre 43%. Les accusations de Trump ne font pas l'unanimité dans ses rangs, même si l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a déclaré sur CNN qu'il serait fou de ne pas croire qu'il y aura des efforts dans certaines villes en vue de manipuler le vote du 8 novembre au détriment de Donald Trump. Cependant, le colistier de Trump, fidèle à son tempérament, s'est employé à calmer le jeu. « Nous accepterons bien sûr le résultat des élections », a affirmé Mike Pence sur NBC, assurant que le milliardaire Donald Trump dénonçait avant tout le soutien monolithique des grands médias en faveur de la candidate démocrate. Trump et Clinton s'affrontent dans leur troisième et dernier débat mercredi. M. Trump a suggéré samedi qu'ils devraient tous de subir des tests de drogue avant ce débat à Las Vegas dans le Nevada. Une insinuation à peine voilée et déjà ridiculisée dans la presse que Mme Clinton aurait été sous l'effet de narcotiques lors du précédent débat dans le Missouri.
Merci Gabi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.